Au sommaire de cet épisode numéro 88 de Tech Café, la conduite autonome remporte-t-elle l'adhésion du grand public ou n'est-ce que le délire des technophiles ? Elon Musk, l'emblématique patron de Tesla, voit d'un mauvais œil les critiques de la presse sur les limites de la conduite autonome. Ses réactions critiques à l'égard des journalistes sont-elles justifiées ? Nous allons en parler ensemble dans toute une rubrique mobilité qui englobera bien d'autres sujets que ceux de la voiture autonome, bien entendu. Et puis nous allons revenir sur le salon du moment qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Non, il ne s'agit pas du salon Vivatech de Paris, mais plutôt de la Display Week 2018, notre sélection dans cet épisode. Et puis, quelques thèmes ont retenu notre attention parmi l'actualité tech, sur le plan légal, sans compter toutes les news qu'on traitera dans une rubrique. En bref, je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de vous présenter cet épisode avec moi, le chroniqueur le plus secret de l'univers du podcast, expert composant et impact technologique sur notre vie en société, auteur de Machines de jeu et de mon offre, Guillaume Poggiaspala. Hello Guillaume, ravi de te retrouver.
Oui, mais bon aussi.
Et également avec moi le plus barbu des développeurs du Québec, cofondateur de Frandroid et Humanoïde, qui abrite notamment désormais Numérama, amateur de bonne bière et cycliste averti, Pierre-Olivier Dibman. Salut Pierre-Olivier, comment vas-tu ?
Salut, ça va, pas mal. Et toi ?
Très très bien, encore une fois ravi de couvrir cette Actu Tech avec vous et puis de vous faire part un petit peu de notre regard critique sur toutes ces choses-là. Tout au long de l'épisode, n'oubliez pas, pendant que vous écoutez, vous avez la possibilité d'aller sur techcafé.fr et déposer des petits commentaires sur les sujets qu'on aborde. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram où vous pouvez discuter avec nous en façon chat IRC ICQ du bon vieux temps. Si vous voulez échanger avec nous en live, ce sera sur Telegram et vous avez le lien dans les notes de l'émission. On commence avec une première rubrique mobilité avec une étude qui porte sur la conduite autonome qui est un sujet qu'on ne peut pas ne pas relayer dans des podcasts tech en ce moment qui montre que il y a un certain nombre de statistiques non seulement qui montrent que les gens de manière générale ont un peu peur de la conduite autonome et on parle d'ailleurs quand on dit les gens d'une population plutôt américaine, ce qui tend à montrer que c'est pas pour une fois l'Amérique qui a compris les usages technologiques de demain et nous qui sommes très sceptiques. Là, on en est à des scores assez, j'allais dire inquiétants quand on les prend au pied de la lettre. Fin 2017, il y avait 63% des Américains qui avaient peur de s'installer dans une voiture autonome. Aujourd'hui, cette statistique et a pris 10 points, donc elle est passée à 73% d'après une étude. Et a priori, c'est vrai pour tous les segments. Donc on aurait la totalité de la population, enfin la totalité des segments dans la population qui seraient plutôt inquiets, y compris les millennials, qui eux sont habituellement ce qu'on appelle les millennials, donc une génération un peu plus jeune, qu'on a l'habitude de connaître plus avant-gardiste ou peut-être plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Eh bien, un signe montre que c'est pas forcément le cas, puisque ils étaient 49% à être un petit peu inquiets sur les véhicules autonomes, et ils ont encore plus peur qu'avant, c'est monté à 64%. Ça, ce sont des chiffres qui montrent que la conduite autonome, et notamment évidemment les accidents qui, je pense, ont une certaine audience dans la presse, ne rassurent pas les gens. Et ça ne s'arrange pas, puisqu'évidemment, il y a toujours des articles qui ressortent sur ces accidents. On va en reparler un petit peu ensemble. Pierre-Olivier, j'ai envie de peut-être me tourner vers toi en premier. Est-ce que cette conduite autonome, toi, ça te fait peur ? Est-ce que cette étude n'est pas un peu exagérée ? Ou est-ce qu'au contraire, elle nous ouvre pas un peu les yeux sur quelque chose que nous, technophiles, on n'aurait pas forcément pris en compte, qui est que c'est pas gagné l'adhésion au grand public de ces véhicules autonomes ?
Habituellement, quand on parle d'études de ce genre-là, mon rôle, c'est de dire que c'est que de la merde, que les gens comprennent rien aux statistiques, que la question est extrêmement mal posée et qu'on a orienté toutes les réponses en posant la question. Et habituellement, c'est vrai. Et c'est sûrement vrai aussi là. Simplement, les chiffres sont trop gros pour qu'on puisse les expliquer simplement par le fait que oui, quand on pose la question aux gens, est-ce qu'ils ont peur, ils vont dire oui. C'est vrai quand même. Mais là, on arrive à des pourcentages, plus des deux tiers des personnes interrogées qui sont en stress à l'idée de monter dans un véhicule qui se conduit tout seul. C'est pas négligeable, c'est pas des effets psychologiques de « on pose la question », etc. C'est effectivement la réalité. tu l'as dit dans l'introduction, il y a aussi un phénomène d'emballement médiatique sur lequel on va devoir revenir parce qu'il y a des milliardaires qui sont pas contents. Mais il y a aussi le fait que parmi tous les acteurs qui sont engagés dans la conduite autonome, on peut pas dire qu'ils aient tous la même éthique d'expérimentation. Et ça nous emmène notamment aux dernières actualités sur l'accident mortel, accident mortel qui a coûté la vie, ça arrive souvent dans les accidents mortels, ouais. Où un véhicule Uber a frappé un piéton / cycliste. La personne avait son vélo, mais était piéton à ce moment-là, dont un rapport d'enquête vient d'être publié et qui détaille assez bien les circonstances techniques de la non-réaction du véhicule.
Ouais, technique et puis pas que, puisque enfin moi je regardais ça et je l'ai découvert, alors mea culpa si je l'avais pas vu avant, mais a priori la victime était aussi on a retrouvé pas mal de d'éléments de type substance illicite ou susceptibles de générer des comportements pas forcément sûrs sur une route et sur un vélo dans donc les analyses de sang de la victime. Alors moi je l'ai découvert dans le cadre de ce rapport. Guillaume, l'actualité sur la conduite autonome, elle est de toute manière en général assez anxiogène. On le voit à tous les niveaux. À chaque fois, évidemment, c'est les accidents qui retentissent le plus et sur lesquels on a l'attention qui se porte le plus. Et ça n'arrête pas là les news ces derniers temps sur les choses un petit peu anxiogènes.
Bah oui, c'est sûr que c'est pas très rassurant tout ça, hein, entre donc l'accident de Uber et l'accident de Tesla, même s'ils sont assez différentes, c'est quand même deux occurrences qui sont rapprochées, qu'on ne peut pas ne pas rapprocher entre elles, quoi. Mais ça m'a fait penser d'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a eu une conférence de presse de Mobileye. Et cette conférence de presse n'a pas franchement rangé les choses. Alors Mobileye, c'est une boîte israélienne qui a été rachetée par Intel pour 15 milliards de dollars quand même, hein. Et son dada, c'est la conduite autonome uniquement avec des caméras. Donc elle teste des véhicules à Jérusalem, ouais, et ces véhicules s'en sortent d'ordinaire pas trop mal. Et là, lors d'une démo à la télé, la voiture grille un feu rouge peinard. Alors, depuis, l'accident a été expliqué, c'est un problème d'interférence du transpondeur du feu rouge avec l'équipement de la chaîne télévision. Bon, apparemment, un problème d'interférence électromagnétique. Même si la voiture a vu le feu rouge, elle a préféré suivre le transpondeur. Donc c'est un bug, hein, qui a été corrigé depuis. Enfin, ça a fait mauvais effet, quoi. Et surtout, c'est une situation qui est très exceptionnelle, auquel les concepteurs n'ont pas du tout pensé, tout simplement. Mais c'est bien le problème, ça, tu vois, on ne peut pas penser à tout. Une voiture, elle est potentiellement exposée à une infinité de situations différentes, et débugger un système comme ça, c'est vraiment une tâche dantesque. Et je comprends que ça soit difficile et qu'il y ait des ratés, tu vois, c'est un système informatique très particulier quand même, et donc il faut se donner le temps et les moyens de le débugger correctement, et ça implique des précautions particulières. Moi, j'ai pas peur dans l'absolu d'une voiture autonome, tu vois, surtout que la voiture, évidemment, c'est juste une facette de la conduite autonome, ça va probablement révolutionner aussi le fret, la livraison dans les 10 ans à venir. Énormément d'applications possibles. Mais il faut juste, par contre, qu'on certifie que la probabilité d'accident soit inférieure ou égale, et plutôt préférentiellement très inférieure, à la probabilité que j'ai un crash avec un chauffeur de taxi moyen, tu vois. Et ça, c'est parfaitement calculable. Hein. Le nombre moyen d'accidents kilomètres pour un taxi dans une ville donnée, c'est connu, hein, je pense. Donc, tant que le nombre d'accidents kilomètres pour une voiture autonome dans cette même ville est largement inférieur, je vais prendre le bus, quoi. C'est tout.
Ouais, non, c'est le comportement, je pense, qu'on peut tous avoir, mais en même temps, la nature humaine est faite de telle sorte qu'on a aussi l'œil beaucoup attiré par, et c'est le principe des médias, hein, sur ces éléments marquants et un peu anxiogènes. C'est un peu le syndrome, je trouve, si je devais faire un parallèle d'une technologie qui arrive avec l'ère des systèmes d'exploitation très modernes, avec des fenêtres, des gestions de systèmes de fenêtres, et j'allais dire évoluer auprès du grand public, avec les syndromes des écrans bleus de Windows. On se souvient tous des écrans bleu, alors qu'objectivement, c'est pas l'écran qu'on voit le plus quand on lance un ordinateur Windows depuis très longtemps, mais c'est celui qui marque le plus des esprits, c'est l'esprit du bug, l'esprit du plantage, d'autant plus que là, il ne s'agit pas simplement d'un logiciel qui plante, mais de vies qui sont mises en question. Alors justement, ce rapport, peut-être sur l'accident mortel d'Uber, on notait quelques éléments ensemble. Pierre-Olivier, tu voulais peut-être revenir sur certains éléments techniques marquants de ce rapport ?
Oui, tout à fait. Donc, ce rapport qui est assez détaillé, à la fois effectivement, comme tu l'as rappelé tantôt, sur la victime et son contexte, mais aussi, et moi, c'est plus ce qui a retenu mon attention sur la partie technique du véhicule. Dans un précédent épisode de Tech Café, j'avais signalé que la pleine responsabilité du piéton était engagé puisque il y a pas de passage piéton, la personne n'a pas regardé, bref, d'un point de vue purement légal, la situation était assez claire. Eh bien, en fait, avec ce rapport, les choses se corsent un tout petit peu, puisque le véhicule Volvo était équipé en fait d'un détecteur d'obstacles qui est capable de déclencher le freinage d'urgence. Sauf que, évidemment, comme le principe même de l'expérimentation de la conduite autonome, c'est d'expérimenter la conduite autonome mais pas les systèmes déjà en place par le constructeur du véhicule, eh bien ces systèmes-là ont été désactivés par Uber. Et là se pose un certain nombre de questions parce que c'est assez clair que le système de Volvo aurait déclenché le freinage, puisque même le système de conduite autonome d'Uber avait vu l'obstacle, il avait juste simplement pensé que c'était une erreur de sa part et qu'il a eu en tout et pour tout 6 secondes pour réagir, ce qui est amplement suffisant pour déclencher un freinage d'urgence. La question se pose dans la mesure où Uber a pris la décision de supprimer une fonctionnalité qui, on le sait, marche et qui aurait pu sauver la vie de cette personne. Là, on est un petit peu... ça risque d'être intéressant s'il y a un jugement là-dessus. Mais voilà, les choses plongent un petit peu plus dans l'ambiguïté, ce qui n'est pas pour rassurer nos amis américains.
Et il y a deux questions moi qui me viennent à l'esprit quand je vois ces histoires de désactivation de ce type de fonctionnalité. C'est et bon, probablement qu'on n'a pas la réponse. C'est un, pourquoi est-ce que ça a été désactivé? Est-ce qu'il y a une explication technique qui fait que objectivement ça leur pose problème d'avoir ce freinage d'urgence, ou est-ce que c'est uniquement est-ce que ça générerait trop de faux positifs et que donc la voiture s'arrêterait tout le temps? Et surtout, est-ce qu'Uber sont les seuls à avoir fait ça, ou est-ce que finalement toute l'industrie automobile autonome fonctionne pareil pour peut-être les mêmes raisons technologiques que moi j'ai identifié, quoi.
Je sais pas si la raison de la désactivation de cette fonctionnalité, c'est tout simplement parce que le sujet, c'est de tester la conduite autonome. Il peut pas y avoir d'autres systèmes automatiques qui fonctionnent en même temps, puisque sinon les données qui sont récoltées sont nulles et non avenues. Il suffirait, mettons par exemple, que le système de Uber se déclenche une nanoseconde après pour que on le voit pas dans les logs se déclencher, on sait pas s'il se serait déclenché, etc. Donc il faut vraiment que ce soit le système qu'on teste qui soit responsable de la conduite. Et comme il est en test, c'est pour ça qu'il y a un conducteur humain, mais dans le cas de l'accident, comme si vous avez regardé la vidéo, vous avez pu le voir, un conducteur humain, lui, par contre, aurait jamais pu détecter l'obstacle. Bien Est-ce sûr. Que les autres constructeurs font pareil? De toute évidence, oui. Par contre, il y a une chose à prendre en compte, c'est que Uber n'est pas une entreprise rentable et ne le sera pas avant probablement le fait de supprimer justement ses chauffeurs, et est très en retard sur son plan de développement de conduite autonome, comme probablement tous les autres acteurs, sauf que les autres acteurs en place, eux, sont rentables et ont un petit peu moins de pression financière et des investisseurs pour être, je dirais, peut-être plus agressifs sur leur campagne de test. Et ça, c'est probable que ça joue un rôle.
Ils dépendent moins d'une charge salariale particulièrement importante. Alors en tout cas, cette actualité dans la presse dont on parle depuis tout à l'heure, elle est perçue comme anxiogène par une bonne partie de la population. Et évidemment, ça fait pas les affaires des entrepreneurs qui basent une grosse partie de leur business sur ce type de technologie et d'évolution, et notamment Elon Musk avec la société Tesla. et qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et de lutter contre ce qui est selon lui une erreur de la presse et des journalistes qui font finalement selon lui mal leur boulot en ne relayant que les choses qui vont mal. Alors oui, c'est un petit peu comme ces dîners de famille le dimanche midi où votre tonton Jacques vous dit « Oh, moi je ne regarde plus le 20h, je regarde plus le 13h parce que il ne relaie que les trucs négatifs et il parle jamais de ce qui va bien. » Bah oui, alors on va pas rentrer dans le débat philosophique du pourquoi du comment, mais c'est vrai que c'est en général, encore une fois, ce qui nous marque le plus et ce qui est le plus relayé et ce qui fait le plus cliquer et générer des revenus publicitaires, les choses qui attirent l'attention sur le plan négatif. Et il faut reconnaître que c'est beaucoup plus intéressant, et mettons de côté les aspects de bien-être, hein, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les exceptions qui font que ça marche pas encore bien, plutôt que toutes les trajets en voiture qui font que ça se passe bien. Je pense qu'objectivement, si on avait aujourd'hui un podcast où on relayait tous les trajets quotidiens de voitures autonomes qui se passent bien, on se ferait rapidement chier, et donc quelque part le système a ses raisons d'être. Et toutefois, ça plaît pas du tout à Elon Musk, qui a annoncé lancer une plateforme qui vise ni plus ni moins que noter les médias et les journalistes. Alors on n'en sait évidemment pas plus que ça. On sait juste que vraisemblablement ça pourrait s'appeler Pravda, ce qui est assez curieux comme choix de nom. Ça évoque autre chose que de la liberté et de l'objectivité et de la classification de qualité journalistique, si j'ose dire. Et c'est quelque part un précédent. Il n'y a pas de précédent pour moi d'initiative de ce type-là. On sort un petit peu d'ailleurs des sujets de conduite autonome avec cette news-là, et c'est presque un petit peu plus philosophique, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'à la fois très inquiétant et malgré tout très intéressant, qui mérite le débat, une plateforme pour noter les journalistes. Guillaume, est-ce qu'il faut le voir comme étant une espèce d'entité qui est là pour sauver l'objectivité de la presse, ou est-ce que au contraire ça te fait peur et t'as l'impression d'assister une fois de plus à un nouvel épisode de Black Mirror en devenir?
Bah, c'est vrai que ça donne quand même la désagréable impression que Trump a un petit peu déteint sur Musk, quoi, en ce qui concerne l'usage pas du tout raisonné de Twitter et de sa relation avec les médias, tu vois. Et ça pourrait d'ailleurs lui amener des gros problèmes, hein, parce que, par exemple, dans une autre série de tweets sur Tesla, il a indiqué qu'il pourrait retirer les stock options aux employés qui se syndiqueraient. Ce qui pourrait être interprété pas très difficilement comme une
ça,
menace,
dingue,
hein, ouais. Qui est donc parfaitement illégal. Et le syndicat des travailleurs du secteur automobile a d'ailleurs demandé au Federal Labor Board, qui je sais pas, une sorte de prud'homme fédéral en quelque sorte. Donc,
tu le dis bien là-dessus. En tout cas.
Merci. Donc oui, Elon et les médias, c'est une relation qui est compliquée. Son projet Pravda, donc Pravda, c'est dire vérité en russe, et donc effectivement, ça fait référence au journal communiste. Bien connu, donc c'est vrai que c'est d'un goût assez douteux, je trouve, et en plus ça semble sérieux, puisqu'il a déclaré Pravda Corp en Californie en octobre dernier. Et donc c'est vrai que ça peut un petit peu inquiéter, parce que finalement, le but c'est de faire un site de notation des journaux qui serait totalement aux mains des internautes. Et on sait que les campagnes de vote sur internet, ça se passe pas forcément très bien, tu vois, il y a quand même beaucoup trop d'exemples, hein, de comment ce truc pourrait partir en sucette le premier jour. Tu vois, il pourrait y avoir des lobbying intenses d'un groupuscule d'abrutis comme le Gamergate ou les incels, hein, il pourrait y avoir du trolling par des puissances étrangères, pourquoi pas, du bombing automatisé par des armées de bots, tu vois, ou alors carrément des batailles d'influence entre les grands médias. Et donc, je vois pas très bien comment Pravda pourrait se prémunir de tout ça, et comment ça pourrait être assez solide pour réussir à faire finalement ce qu'elle envisage de faire, à supposer que c'est vraiment de promouvoir les meilleurs médias et pas d'influencer quiconque, hein, donc voilà. Donc si Pravda, et le problème c'est que si Pravda rate, elle fera plus de mal que de bien. Donc de là à dire que c'est une mauvaise idée.
Pierre-Olivier, est-ce qu'on peut quand même un peu, au fond, nous, espérer avoir un équivalent d'un Wikipédia sur la notation de la qualité journalistique, avec un sujet tel que celui-ci? Après tout, Wikipédia, c'est un site qui est alimenté intégralement par les internautes, par le grand public. Ça fonctionne globalement très très bien. On sait que la fiabilité de Wikipédia est bien supérieure aux encyclopédies papier ou figées, ou qu'on avait encore il y a ça quelques années sur CD-ROM. Pourquoi est-ce que finalement une plateforme de notation comme ça ne pourrait pas fonctionner?
À cause de nous. La réponse est en nous, comme tout le temps. En introduction, tu disais que ça n'existe pas une plateforme qui note les journalistes, rédacteurs, etc. Malheureusement, ça existe et c'était de la merde. C'est le truc de Le Monde et compagnie pour lutter contre les fake news.
Le décodeur,
ouais, le décodeur, exactement. En réalité, c'est exactement ça, sauf que c'est pas les internautes qui choisissent si ce qu'ils lisent c'est bien ou pas. C'est la concurrence. Donc c'est encore plus vicieux et le décodeur ne décode absolument pas d'informations, il se contente de noter la réputation d'un média, c'est-à-dire que on peut très bien lire un excellent papier sur un journal de merde, ça sera toujours marqué que c'est un journal de merde. À l'inverse, par contre, quand Le Monde relaie des fausses nouvelles malgré eux parce que le journaliste s'est trompé, n'a pas eu le temps de vérifier ou a mal traduit ou quoi que ce soit, et ben là c'est marqué que c'est une information de qualité, même si ça n'est pas le cas. Donc ce genre de plateforme.
Ouais. Je te coupe, excuse-moi, parce qu'on commet une erreur et je voudrais pas qu'on nous taxe je suis sûr qu'on va nous corriger. C'est le Décodex qui est ce plugin qui est proposé par les Décodeurs, qui est donc une entité du Monde. Les Décodeurs, c'est une entité éditoriale qui va en gros faire du fact-checking, voilà, du vrai fact-checking. Après à la limite, on est d'accord, pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais au moins il y a un travail par rapport à ça. Et le Décodex, dont la démarche, on en avait parlé, est un peu plus compliqué à mettre en œuvre effectivement qu'un plugin de notation de site internet.
Tout à fait.
Je te laisse
voilà.
Continuer.
Et c'est effectivement contre cette démarche de noter les sources et donc ce plugin que j'en ai, et pas contre le très bon boulot des décodeurs. Effectivement, merci de la correction. Et la raison pour laquelle le décodex c'est de la merde, c'est parce qu'on ne peut pas fact-checker en live l'information qui arrive en continu. Et le problème qu'Elon Musk a avec les médias, c'est le problème que le monde entier a avec le monde entier. Le truc, c'est que la vitesse de l'information, elle est exponentielle. Plus les technologies avancent, plus l'information se répand vite et plus on prête attention aux faits divers. Pensez-y, si vous êtes devant une chaîne d'information en continu, vous allez recevoir en continu tout ce qui se passe du moindre fait divers à la plus importante des catastrophes. Alors que si vous regardez le journal télévisé tous les jours, eh bien là, il va y avoir un filtre. On a 45 minutes pour parler de l'information, on va se consacrer aux choses importantes de la journée. Si vous lisez le journal le lendemain, on a encore plus filtré, parce que d'abord, on sait que sur les quelques pages que vous allez lire, c'est déjà pas toutes celles du journal, donc faut hiérarchiser l'information, mettre en une, etc. Si vous lisez un hebdomadaire, et ben c'est encore plus trié, etc., etc., etc. Bref, plus on consomme vite l'information, plus c'est de la merde. Et ce problème-là, Elon, il l'a avec les véhicules autonomes. Je veux dire, si on devait résumer l'année 2017 en matière de conduite autonome, on ne parlerait que des progrès qu'on a faits. On ne parlerait jamais de ces quelques anecdotiques accidents qui restent des catastrophes pour ceux qui les ont vécues. Hein. Attention. Mais on n'en parlerait pas parce que statistiquement, c'est une paille. Et ce problème qu'Elon a, les pouvoirs politiques l'ont, nous-mêmes en tant que personnes, on l'a, parce que après on a des biais cognitifs énormes sur la délinquance, sur un certain nombre de sujets, et c'est aussi la raison pour laquelle sa solution, eh ben, elle ne marchera pas, parce qu'elle s'engouffre à toute vitesse dans ce qui est exactement le nœud du problème. Il va, au lieu de canaliser l'information et de la trier, de la filtrer, de la hiérarchiser, on va au contraire rajouter une couche d'information, à savoir qu'est-ce que les gens en pensent de cette information, et ça sera exactement pareil. Et là, on va avoir des news comme quoi une information, ah bah là, elle a été downvotée par tel truc, on va rajouter encore plein de choses.
Ouais, c'est vrai que ça serait si jamais des organismes qui proposent des votes en plus et en moins permettent d'y voir clair et de mettre d'accord tout le monde. Allez, on peut espérer, pourquoi pas, qu'il a une idée secrète à laquelle on n'a pas pensé et qui sera révolutionnaire, même si au jour, à l'heure actuelle, on voit pas du tout ce que ça peut être. On s'éloigne un petit peu de ces sujets à enjeux industrie de conduite autonome, mais on reste un tout petit peu dans la mobilité, juste pour quelques petites news autour des gens qui aiment bien ne pas rester en place, Guillaume.
Ouais, mais c'est mieux sur les chanteurs de rue. Alors, les chanteurs de rue, évidemment, il y en a dans toutes les grandes villes, il y en a beaucoup à l'endroit. Et en fait, ce qui commence à se raréfier dans cette ville, c'est pas les chanteurs de rue, c'est la monnaie, c'est les billets, en un mot, le cash. Alors comment donner aux artistes de rue, ou même aux sans-abri, hein, si on n'a pas un sou en poche ? Eh ben, Sadi Khan, le maire
Apple
de l'endroit...
Apple Pay.
Et ben, tu sais que c'est exactement ça, il a vu la solution, lui, dans iZettle. C'est une boîte suédoise, spécialisée dans le sans-contact, qui d'ailleurs vient d'être rachetée par PayPal. Donc les chanteurs peuvent donc connecter un lecteur sans contact avec leur téléphone, via Bluetooth, afin qu'ils puissent être payés par carte, aussi bien qu'avec des pièces. Alors selon certains, ça aurait donné un bon coup de fouet aux dons, mais bon, alors vous me connaissez sans doute, enfin si vous me connaissez un petit peu, si vous avez déjà écouté le Tech Café, vous savez déjà que je redoute la disparition du cash. Alors évidemment, hein, cette news m'effraie plus que toute autre chose, parce que c'est le type d'initiative qui acte la fin de la monnaie physique. Et moi, et tu sais qu'à mon sens, c'est un danger social sérieux, hein, c'est une nouvelle forme d'exclusion qui s'annonce, qui je pense, vraiment très dure. Et voilà, moi, je suis pas à l'aise avec la disparition du cash, hein, il y a plein de problèmes, hein, je peux les réénumérer si tu veux, mais c'est, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est trop tôt, il y a pas d'alternative. Pour moi, la disparition du cash, ça serait une catastrophe, pour les plus fragiles. Donc, moi, je suis assez, je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, on m'a déjà entendu réagir sur le sujet et je suis vraiment pas aussi tranché que toi, même si je comprends tout à fait ta démarche et j'ai du mal évidemment à argumenter pour aller à l'encontre de ce que tu penses. Pierre-Olivier, je suis pas sûr qu'on t'a entendu sur cette question qui paraît simple et qui est, je crois, malheureusement loin d'être simple, de la disparition du cash. Est-ce que tu attends ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes comme Guillaume?
Moi, je trouve que c'est une privation de liberté. Si c'est fait tel que ça commence à, tel que c'est envisagé par les banques, c'est-à-dire que la toute traçabilité des flux monétaires, même si elle est nécessaire pour lutter contre la délinquance et la criminalité, ça reste que c'est une intrusion dans la confidentialité et la vie privée à laquelle tout un chacun a le droit. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens sont très excités sur les crypto-monnaies parce qu'elles ont les avantages de la monnaie électronique et les avantages du cash. Et effectivement, il y en a certaines qui sont intéressantes, pas toutes et pas le Bitcoin par exemple, mais bon, voilà, je suis assez partagé. Si je devais diriger un pays, le cash serait interdit, hein, je vous le confirme.
Mais il serait interdit, mais du coup c'est quoi l'alternative, tu vois, c'est tu donnes un pouvoir illimité à Visa ou à juste un petit noyau d'entreprise.
Moi j'ai quand même des côtés despotiques assez poussés, donc je nationaliserais quand même.
Nationaliser quoi, voilà, tu feras une crypto-monnaie.
À un moment donné, c'est un pouvoir régalien, l'argent.
Mais justement, il y a aussi ça, hein. Il y a aussi le fait que la monnaie, mine de rien, c'est quelque chose qui appartient à l'État, c'est quelque chose qui appartient au pays, donc c'est un bien public.
Parce que c'est pas le cas du tout. Hein.
la monnaie physique, c'est quand même quelque chose qui est émis par l'État, qui est géré par l'État. Et d'ailleurs, en soi, une monnaie, ça doit être quelque chose de public. Tu vois, et si on remplace ça par de la monnaie électronique, on va tout mettre aux mains du privé finalement. On va tout mettre, c'est que des entreprises privées qui vont gérer ça du coup.
Ça mériterait un hors-série de Tech Café. Je te fais un appel.
Oui, c'est ce que je me disais.
Guillaume Vendée. Mais voilà, l'argent cash,
on va le faire.
Je sais plus quel est le pourcent, mais c'est entre 4 et 8% de l'argent.
J'aimerais effectivement beaucoup qu'on fasse cette émission. Tiens, si vous voulez qu'on la fasse, cette émission sur la fin du cash, dites-le nous en commentaire. La boucle est bouclée. Donnez de l'argent sur le financement participatif de Tech Café sur Patreon. Mais surtout, dites-le nous en commentaire parce que c'est un débat sur lequel moi je n'arrive pas à aller dans une pleine adhésion de la thèse de la. En tout cas, je n'arrive pas à être 100% d'accord avec les raisons que tu évoques, Guillaume. On en a déjà parlé sur la disparition du cash. On en reparlera. C'est un débat super intéressant. En attendant, dernier clin d'œil sur la mobilité. Et là, ça va toucher à l'aspect de toi qui aime le jeu, le divertissement vidéoludique, Guillaume.
Oui, le jeu en mobilité, bien entendu. Et oui, parce que Sony s'est doté d'un nouveau chef de la division jeu, et il s'appelle John Codera, et il a donné une interview à Bloomberg dans laquelle il laisse la porte ouverte au jeu mobile, en lien avec la PlayStation 5. Alors c'est donc une porte qui se réentrouve après avoir été violemment claquée par Shuhei Yoshida en 2015, ce dernier ayant dit en substance qu'après le succès tonitruant de la Vita, on pouvait se gratter pour avoir une Vita 2. Bon, le succès de la Switch apparemment fait réfléchir Sony, et c'est bien, hein, donc évidemment aucune console hybride n'a été évoquée, mais bon, on peut réfléchir, on peut rêver. D'ailleurs, pour la PS4, Sony évoque une fin de cycle, hein, donc les ventes commencent à se tasser, c'est normal. Hein, ça
baisse déjà, ça me paraît dingue.
Et mais par contre, t'inquiète pas, on va quand même lui laisser du temps, puisque une éventuelle PS5 ne serait pas prévue avant 2021. C'est quand même 8 ans après la PS4, c'est 5 ans après la PS4 Pro. C'est long, mais plus c'est long, plus c'est bon. Alors, évidemment, on n'a pas d'infos hein, sur la nature de cette console, mais il y a gros à parier que si c'est Marc Cerny qui reste aux commandes, et bon, c'est probable vu le succès du dernier bébé, on va conserver les grandes lignes de la plateforme. Hein. Et donc, du coup, si on s'amuse à évoquer une PS5 qui serait toujours en AMD, toujours gravée par TSMC, bah, 2021, ça laisserait le temps aux fondeurs de produire en volume, et à coût raisonnable, hein, les APU en 5 nanomètres. Et c'est un process qui fera ses débuts en 2019, mais s'il est délicat, puisqu'il adopterait les ultraviolets extrêmes, c'est un process qui a été maintes fois repoussé. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça marche, par contre, ce sera plus simple et très efficace. Donc, je rappelle que la PS4, c'était 28 nanomètres. La PS4 Pro, 16 nanomètres FinFET. Donc, si on se projette en 5 nanomètres et qu'on fait un calcul approximatif, on peut compter sur 8 fois la puissance de la PS4 Pro pour la PlayStation 5. Et ce, rien que par le hardware. Donc, si on compte en plus les améliorations de la mémoire et des architectures, à la louche, on peut dire que c'est environ 20 fois la PS4 d'origine pour la PS5.
Ah, quand
même,
hein.
C'est pas mal, en fait. Oui, c'est pas mal.
Ouais, ça laisse le temps de voir venir pour améliorer la qualité des graphismes. Mais c'est vrai que un dernier mot là-dessus, parce que j'ai un petit peu plus de temps ces derniers jours, ou en tout cas je me dimensionne un petit peu mieux pour profiter un petit peu de la Switch, notamment avec mon fils. Et quelle expérience c'est effectivement d'avoir une console dont la qualité graphique permet d'être affichée sur une télé de taille, on va dire intéressante et avec des graphismes séduisants, et en même temps vraiment dans la seconde quoi de brancher le boîtier, de mettre les Joy-Con sur le côté et d'en faire une console portable parce que voilà, on part en trajet, parce qu'on part quelques jours ou parce qu'on veut tout simplement jouer à d'autres endroits de la maison. C'est trivial, mais en fait, une fois qu'on l'a expérimenté, on se dit que l'expérience de jeu vidéo devra nécessairement passer par là. On enchaîne tout de suite avec un dossier sur... alors, j'ai pas souvenir, Guillaume, qu'on ait traité ça au moins sous l'angle d'une rubrique dans un précédent Tech Café. Pierre-Olivier ou Guillaume, vous me contredirez si je dis des bêtises. Mais il s'agit de la Display Week 2018, dont le nom fait un peu sourire, j'avoue. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que t'as relevé pour cette Display Week 2018?
Bah écoute, je l'avais évoqué il y a deux numéros, hein, lorsque j'avais parlé des super écrans pour la VR. Et donc, la Display Week, c'était du 20 au 25 mai. C'était à Los Angeles et c'est un symposium de pros et en fait c'est très B2B, donc c'est pour ça aussi que c'est pas beaucoup relayé, c'est parce que souvent c'est des entreprises qui proposent leur technologie à d'autres entreprises et on n'y trouve pas vraiment des produits, on y trouve plutôt des protos et des contrats se signent, etc. Mais là il y a quand même des trucs qui sont plutôt sympas, et puis comme j'en avais parlé, bah je me suis dit que ce serait cool de la relayer. C'est pas très relayé dans les médias donc cette fois non plus. Et du coup, on peut avoir une idée de l'état de l'art, si tu veux, en matière d'affichage. Des choses qui, dans quelques années, seront dans les poches, quoi, hein, ou sur les murs. Et donc, comme prévu, il y avait des écrans de très haute densité qui ont été présentés, principalement pour les casques VR. Et la palme revient à LG, hein, qui, en partenariat avec Google, a présenté un écran qui offre 18 mégapixels par œil. Je rappelle que c'est 1 pour le PSVR et 2,2 pour le Vive Pro. Donc c'est du sérieux, hein, la pixelisation c'est fini, l'effet de gris c'est terminé aussi, la qualité des écrans HD dont on a l'habitude, ça devient possible en VR, c'est-à-dire sur la totalité du champ de vision. Et d'ailleurs, on peut dire que LG était en feu au Display Week, hein. Il avait des écrans partout, hein, des écrans OLED flexibles, il y avait même un écran OLED de 77 pouces semi-transparent, 40% de transparence, hein, pour être précis. Et comment c'est faire des écrans flexibles, hein, pourquoi pas s'en servir comme membrane de haut-parleur? Et ça, j'ai trouvé ça très très malin. C'est un écran qui est flexible, donc du coup, ben, on le fait vibrer, et c'est lui qui fait le son. Voilà comment on obtient un écran de 65 pouces qui vibre, qui pourra produire lui-même sa musique. Donc c'est une solution qui est très élégante au problème de la qualité du son sur les télés, hein, aussi bien que sur les téléphones qui pourront enfin être sans encoche, vous connaissez mon désamour des encoches. Donc voilà, c'était très intéressant tout ça. Il y avait aussi JDI et Samsung qui... JDI c'est Japan Display, et Samsung qui présentait les protos. D'ailleurs... Samsung présentait aussi un écran light field, puisque la très 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 haute résolution autorise à concevoir des écrans 3D sans lunettes, et qui sont multi-points de vue. Et donc leur écran, par exemple, avait une résolution effective de 2560x1440, mais il y avait 26 points de vue. Et en fait, c'est ce qui se rapproche le plus d'un hologramme en vrai. Donc si vous regardez la vidéo, effectivement, vous pouvez incliner l'appareil, vous voyez vraiment derrière les objets. C'est assez bluffant. Et il y avait aussi des écrans plus grands en 3D, parce que, bah écoute, la 3D, les écrans en relief ne sont pas tout à fait morts. Contrairement à ce que tu croyais, j'en suis sûr.
Ah oui, j'en étais persuadé.
Mais oui, n'est-ce pas?
C'était un peu le cas, quand même.
Oui, c'était un peu le cas. Mais cette fois, ils reviennent, mais ils sont sans lunettes. Parce que les technologies lenticulaires, si tu veux, elles vont revenir en force. Parce que jusqu'à présent, le fait qu'elles réduisent la résolution limite pas mal leur intérêt. Mais comme on a des écrans qui deviennent 8K et que ça devient courant, ben, c'est plus vraiment un problème. Du coup, il y a BOE, par exemple, qui a présenté un écran auto-stéréoscopique de 65 pouces. Et Tianma, qui utilise un système de lentilles pour afficher ce qui ressemble vraiment à des hologrammes. Hein. Et il y a même Dimenco, qui va encore plus loin, puisqu'il compte démocratiser ce qu'il appelle la réalité simulée. Et qu'est-ce que c'est la réalité simulée? Bah, c'est de la VR, mais sans casque. Alors, comment ça marche? Eh bien, vous avez des écrans géants.
Il y a quelqu'un qui te fait défiler des images en papier devant toi, avec un paperboard.
Alors, la réalité sans casque.
Simulée.
C'est la vraie réalité, tu vois. Mais là, il faut qu'elle soit virtuelle. Donc, il faut qu'il y ait des écrans partout. Et en fait, il y a des écrans géants en 3D sans lunettes. Et comme sur une New 3DS, il y a un suivi du regard qui permet à la 3D de s'adapter. Et il y a aussi des capteurs de type Kinect, en fait, hein, qui suivent les mouvements du corps et des mains. Et donc, tu es enfermé dans une pièce. Et dans cette pièce, tu vois des choses en 3D, tu peux interagir avec. Et voilà, apparemment, ça marche pas mal, parce que Dimenco faisait partie des lauréats du prix des meilleures présentations du salon, avec d'autres, hein, par exemple Tianma aussi. Bah, alors Tianma, il faisait aussi des écrans LCD HDR pour les smartphones. Donc le HDR, c'est plutôt, tu sais, pour les écrans géants et OLED. Mais Tianma, lui, utilise un écran LCD avec une technique de rétroéclairage local dynamique, avec une matrice de micro-LED. Ben, résultat, on a des écrans LCD de portable qui sont voilà typiques, hein, de taille portable, mais avec des contrastes et des luminosités qui sont dignes des télé-home cinéma. Donc ça permettra...
C'est plus intéressant que l'OLED ou...
De quoi? Ah ben oui.
Le LCD...
C'est moins cher, c'est un petit peu moins cher. Produire des écrans de téléphone LCD HDR, c'est plus simple et c'est moins cher que de produire du OLED HDR. Le OLED, en fait, le problème du OLED en ce qui concerne le HDR, c'est que la luminosité est relativement limitée. C'est difficile de leur faire émettre vraiment beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'on passe au micro-LED maintenant, d'ailleurs, tu vois. D'ailleurs, c'est si je me plante pas, c'est AU Optoelectronics qui a été distingué aussi justement pour ses écrans micro-LED à haute densité. En fait, tout le monde s'intéresse au micro-LED en ce moment. Hein. Apple sera même sur le coup pour ses prochains appareils. Et Samsung a présenté au CES un écran géant micro-LED. Mais c'était vraiment un écran géant, il fait 144 pouces, c'est, je crois, un truc vraiment vraiment énorme. Et le micro-LED, c'est probablement la technologie du futur, hein, puisqu'elle offre tous les avantages de l'OLED. Elle a compris une meilleure luminosité, donc un meilleur rendu HDR, une meilleure durée de vie, et elle pourra même être moins chère à terme, puisqu'en fait, elle est en moins de couches, donc elle est un petit peu plus... une fois que tous les process sont mis au point, elle sera un petit peu moins chère.
Alors, et je vois même, tu mettais AU Optoelectronics, là, avec ce nom imprononçable, qui ferait des écrans transparents.
Absolument, ouais. Pour le moment, l'OLED reste le roi, mais AU Optoelectronics fait aussi des écrans transparents. Eux, ils ont réussi à passer à 78% de transparence, qui battent même ceux de Samsung. Alors, l'intérêt, c'est clair que pour faire un tableau Excel, c'est pas clair, l'intérêt d'un écran OLED transparent, je te l'accorde. Par contre, pour les
tournages dans les films futuristes, oui, c'est bien.
Ben alors, exactement, il y a la possibilité de faire des présentations, et bon, si tu rends un écran OLED transparent, si tu le rends 3D, bah t'as un hologramme globalement, tu vois. Donc je sais pas exactement si c'est... ça restera des usages qui seront relativement spécifiques quand même. Bon, après, c'est quand même impressionnant à voir, c'est toujours ça. Mais je suppose qu'on peut tout imaginer, hein. Un écran OLED transparent, tu peux imaginer en faire une fenêtre, par exemple, qui affiche des informations, ou un miroir, la mettre par-dessus un miroir qui affiche des informations. En fait, je pense que ça sera réservé à tout ce qui est du domaine de la tête haute, tu vois, du HUD. C'est des informations que tu mets en surimpression d'autres choses.
De toute façon, tout ce qui concerne l'innovation technologique, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai arrêté de me poser la question de finalement est-ce que c'est bien intéressant, etc. Je me rappelle d'un épisode à l'époque de Tablette Café où il y avait un débat. Je suis même pas sûr, Guillaume, que tu étais présent, mais je suis sûr qu'il y avait Pierre-Olivier et à l'époque Cédric Tamboise. Et je crois que c'était avec l'arrivée des écrans qu'Apple a présenté comme étant Retina, donc avec des définitions où on voyait pas trop les pixels. Et je disais à l'époque, puisqu'il y avait des innovations qui montaient encore en densité de pixels, je disais mais à quoi ça sert finalement ? Est-ce que c'est pas peine perdue d'augmenter cette densité de pixels? Et à l'époque, je me rappelle très bien de Pierre-Olivier qui disait les usages, de toute façon, même si on les sait pas encore, si on les réalise pas encore aujourd'hui, il y en aura forcément besoin demain, c'est une évidence, faut que ça progresse. Et je vois aujourd'hui les besoins qu'il y a d'augmenter cette densité de définition avec les casques VR pour qu'on ne voit pas les artefacts d'affichage. Bon, l'histoire, évidemment, une fois de plus, vous donne raison et me permet de mieux comprendre les choses. Donc, j'arrête un petit peu de poser cette genre de questions. C'est un petit peu ironique parce que quand on regarde des films de science-fiction, on voit toujours des écrans transparents et on comprend pas pourquoi ils sont transparents. Mais évidemment, il y a probablement d'autres images. Bah, encore des petites choses
oui,
sur.
Après, il y avait des trucs. Oui, des trucs qui sont plus. Enfin, auxquels on s'attend plus. Visionox, par exemple, aussi était parmi les lauréats.
Quel nom ?
Lui, c'était pour des écrans qui prennent toutes les formes. Donc, on avait une boîte en forme de cœur, ou un haut-parleur cylindrique, hein, dont tout le tour est un écran. Il y avait un livre ouvert aussi. Il y avait un tableau de bord de voiture du futur, où les écrans sont partout, et ils poussent toutes les formes, ils sont tous fonctionnels. Donc, ça donne effectivement une certaine vision du futur. Puis après, on a vu aussi l'encre électronique, quand même. C'est-à-dire des écrans passifs, de type passif. Il y avait un concurrent de e-ink, qui est pas tout à fait nouveau, il était là aussi l'an dernier, c'était Clear Ink. Lui, il présentait ses protos qui ont des blancs plus blancs et surtout des écrans plus réactifs qu'avec e-ink et des possibilités d'animation donc et de couleurs. Donc du coup, ça ouvre une voie au-delà des liseuses dans les appareils connectés, les montres, l'internet des objets, etc. Donc c'est une alternative au e-ink qui était lui aussi présent hein, par ailleurs. Donc e-ink aussi présentait ses derniers écrans, alors ses derniers grands panneaux e-ink. Donc ils en mettaient 4 par exemple, ça faisait une partie de mur. Et on avait vraiment l'impression d'avoir des gravures, des tableaux. C'était vraiment vraiment intéressant. Donc il y a des meilleurs contrastes. Il y avait aussi des tout petits écrans qui sont intégrables dans des cartes de crédit par exemple. Et puis, surtout, ce qu'il fallait sans doute retenir, c'est qu'il y avait des e-ink couleurs qui étaient vraiment convaincants, quoi. Donc, ils ont une technologie qui s'appelle le Advanced Color E-Paper, qui a mis beaucoup de temps à être mise au point, mais qui est au point, apparemment. Donc, il y a deux panneaux en 32 et 13 pouces. Ça offre 32 000 couleurs sur 1600 par 2500, et le panneau de 13 pouces pourrait même arriver fin 2018, si on a de la chance, 2019. Et là, du coup, on a vraiment l'impression d'avoir une page de livre en couleur ou crayonné avec des crayons de couleur. C'est assez enfin le papier électronique couleur a l'air d'arriver, donc c'est pas mal.
Bah tant mieux, c'est quand même chouette de voir toutes ces technologies d'écran qui évoluent, même si dans nos usages j'ai l'impression que ça change pas, enfin dans nos maisons, dans nos petites chaumières, ça change pas peut-être si vite que ça. Évidemment il y a le smartphone qui évolue à vitesse grand V, les télés, mais ça va venir.
Dès que le smartphone pliable, oui. Il y en avait au Display Week 2017 déjà.
Oui, on attend notamment le Galaxy X dont on parle de manière récurrente dans Tech Café, et on verra évidemment le jour où il débarquera, ce smartphone pliant, s'il apporte quelque chose en termes d'usage. Mais en tout cas, la prouesse technologique, encore une fois, est hyper intéressante. On enchaîne avec une rubrique qui va toucher un petit peu plus à des aspects légaux de la tech. Légo mais pas chiant, c'est la promesse un petit peu de cette rubrique, à commencer par une sombre histoire autour d'un assistant Amazon Alexa qui aurait enregistré des discussions privées à l'insu du plein gré d'une personne à son domicile. C'est la personne qui s'est elle-même rendue compte que l'assistant avait enregistré une discussion privée qu'elle avait eue avec son époux. On peut imaginer entre le truc et le fromage, je sais plus quelle est l'expression, mais en tout cas entre la première partie, et que cette conversation a carrément été envoyée à un autre appareil Echo. En l'occurrence, c'était une enceinte Amazon Echo qui était détenue par un des collègues de son mari. Alors non, c'est pas le scénario du prochain vaudeville avec l'amant dans le placard, mais c'est tout simplement une succession de ce qui est présenté comme étant des événements improbables, des bugs. L'explication, c'est qu'Echo s'est activé à cause d'un mot dans une conversation en fond qui ressemblait à Alexa. Donc en gros, Echo s'est gouré à enregistrer alors que c'était pas Alexa qui avait prononcé la personne. Ensuite, la conversation qui a suivi a été interprétée comme la requête
envoyer un message. À ce moment-là, Alexa a dit à voix haute « À qui ?» Et alors là, du coup, comme la conversation était un peu en brouhaha, il y a Alexa qui a interprété la conversation comme étant la réponse, avec un des noms de la liste des contacts de la personne qui détenait l'assistant. Ça fait un peu scénario improbable, d'autant qu'aujourd'hui, de deux choses l'une, soit l'assistant comprend rien, et là je pense notamment à Siri qui comprend pas grand-chose, soit on est face à un Google assistant qui quand même comprend pas mal de choses, mais on se retrouve pas dans une succession de compréhensions bizarres. À la limite, on peut avoir plusieurs bonnes compréhensions dans une conversation, puis en avoir une sur laquelle soit il y a pas de réponse, soit il y a un bug, etc. Mais pas une succession de choses comme ça qui amène à des vraies choses perceptibles et des vraies choses qui ont des vraies implications dans le quotidien, mais qui sont erronées. Est-ce que alors je donnerai le micro peut-être à Pierre-Olivier juste après, mais Guillaume, toi qui fustige contre les assistants connectés et les problèmes que ça occasionne ou que ça va occasionner, est-ce que tu as envie de glisser là la sempiternelle phrase « je vous l'avais bien dit » ?
Non, mais c'est vrai que c'est quand même une succession qui est hallucinante. Quoi. Je veux dire, tu peux perdre une carte, mais pas 15, tu vois, ou deux cartes. Mais bon, je vais arrêter là la référence au Tuche 2 parce que ça va bien. Écoute, je trouve franchement que c'est absolument hallucinant puisqu'il y a quand même eu trois faux positifs d'affilée. Oui. Je comprends pas pourquoi Alexa est aussi sensible aux faux positifs, parce qu'il y avait déjà eu ce problème de rire, tu sais. Elle se mettait à rire, en fait, c'était un faux
positif. Rire démoniaque.
Aussi, hein. Et là, donc, en fait, elle est très, très, très sensible aux faux positifs. Donc, finalement, elle marche pas si bien que ça. Donc, en plus d'être inutile, ces trucs marchent pas non plus très bien. Bon, moi, je dis ça, écoute.
Alors Pierre-Olivier, est-ce que tu vas rejoindre cette entre guillemets voix de la sagesse de Guillaume, ou est-ce que tu as une vision un peu différente de cette affaire ? Ça fait quand même froid dans le dos là encore, hein, cette histoire.
En tout cas, je comprends pourquoi tu disais que c'était une rubrique où on allait parler de trucs Lego, c'est parce que finalement les gens s'emboîtent comme des Lego.
Nous on aime bien les jeux Lego.
Voilà. J'attendais, ça fait 5 minutes que j'attends de la faire, alors si tu veux. Non mais en vrai, pour moi, ça rejoint un truc que j'ai pas dit mais que j'aurais dû dire il y a déjà des milliards d'épisodes. Aujourd'hui, on appelle ça des assistants. On devrait pas. C'est juste des commandes vocales, ouais. Et je trouve que cet incident qui est malheureux et tout à fait absurde et qui a peu de chances de se reproduire, en tout cas j'espère. Enfin, ça dépend pour qui, mais bon, bref, on devrait arrêter d'appeler ça des assistants parce qu'aujourd'hui, c'est pas au niveau d'assistance, ce sont des commandes vocales. Certains plus que d'autres, c'est vrai, mais pour le moment, c'est juste des commandes vocales. Tu lui demandes de faire un truc, il fait un truc.
Ouais, bien sûr.
Parce que j'ai oublié une partie de ma phrase, sinon ça fait très catégorique. Ce que je veux dire, c'est que pour les appeler à des assistants, il leur manque la compréhension du contexte, en fait. C'est-à-dire d'être capable d'évaluer déjà à qui on parle, pour commencer, et de quoi on parle, pourquoi on en parle, et à quel moment est-ce qu'il faut prendre action. Là, aujourd'hui, il entend « fais ça », il fait ça. Et c'est cette notion de contexte qu'a manqué dans cette histoire, mais qui manque dans absolument toutes les interactions qu'on peut avoir avec ces dispositifs. Désolé.
Non. Et puis ça soulève aussi peut-être une limite. Cette espèce de non possibilité de régler les appareils commence à être une tendance forte, je trouve, dans les technologies. Ça a ses avantages. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de se les approprier pour le grand public. Mais ça a aussi ses limites, c'est qu'on peut pas parfois personnaliser l'expérience dans une certaine mesure. J'imagine que des personnes pourraient être intéressées pour régler la sensibilité de déclenchement de ces appareils, d'arriver à, là ça commence à arriver, hein, mais de déclencher, de mettre en place certains mots-clés qui permettent d'activer certaines commandes. Et on n'est pas encore aujourd'hui dans cette capacité, dans ces appareils, à les régler comme on aimerait qu'ils fonctionnent complètement. Bon, d'une part parce qu'ils sont assez imparfaits, et puis aussi parce que comme c'est une technologie assez nouvelle, je pense que l'appropriation du grand public passe par la simplicité, et ça se comprend aussi.
Un autre sujet qui soulève un petit peu des réactions et des émotions, et c'est bien compréhensible, c'est la police de la ville d'Orlando qui teste une technologie de reconnaissance faciale. Là aussi, on parle d'Amazon, puisque c'est eux qui fournissent la technologie de reconnaissance faciale, en pleine ville. Alors, il y a eu une conférence de presse où donc le chef de la police de la ville d'Orlando s'est exprimé sur l'utilisation de ce dispositif de reconnaissance faciale qui a été développé par Amazon Web Services, donc l'entité cloud, on va dire, d'Amazon, qui s'appelle Recognition, et évidemment qui laisse, je trouve, une impression bizarre quand on utilise ce terme-là. Et c'était juste un test au niveau du quartier général de la police qui a été mis en place sur 3 caméras de sécurité publique. Mais évidemment, ça a fait tiquer. Tout simplement parce qu'on est tous au fait, et je pense pas que à vous qui écoutez Tech Café, mais je pense que c'est un truc qui se sait de plus en plus, qu'en Chine il y a cette technologie qui vise à faire de la reconnaissance faciale massive, et même au travers de lunettes maintenant, on en a déjà parlé, et on commence à voir que cette technologie, c'est un des premiers signes, peut-être qu'il y en a d'autres ou peut-être que ce sera un cas isolé, mais ces technologies-là commencent à arriver dans d'autres typologies de pays, et notamment des pays comme les États-Unis. Je me rappelle qu'il y avait eu aussi ce cas des caméras de surveillance sur Nice qui avait aussi fait tiquer, même s'il n'y avait pas encore de reconnaissance faciale. Donc peut-être une news pas forcément sujette aux réactions, sauf si vous voulez en faire une, mais qui montre que quand on a cette vision un peu unilatérale de dire la Chine a vraiment ses usages qui sont très déviants et les autres pays dits européens ou les pays d'Amérique du Nord ne sont pas dans ces mêmes philosophies-là, je trouve que c'est intéressant aussi de suivre ces mouvements-là. La reconnaissance faciale, c'est bien, mais on peut faire peut-être mieux que ça, ou en tout cas peut-être plus pratique ou plus utile, Guillaume ?
Non, mais moi, c'est une news qui me rappelle, qui m'a fait penser à cette info, comme quoi il y a des chercheurs de l'Université du Michigan qui ont créé PrimeNet, qui est un algorithme de reconnaissance faciale pour les primates, donc les singes et les lémuriens. Et d'ailleurs, un des chercheurs avait déjà créé Lemur ID, qui était un truc pour les lémuriens.
J'adore.
Et donc, il a fait ça par le passé, mais PrimeNet, de toute façon, les bat tous, de toute façon. Mais pourquoi on fait ça? En fait, tout simplement pour remplacer les dispositifs de suivi actuels, qui sont plutôt chers et stressants pour l'animal. On peut donc tout remplacer par des simples caméras, que ce soit en milieu sauvage ou alors juste pour identifier un primate à la volée, quoi. Et donc ça pourrait être un primate capturé ou un primate volé, et donc on pourrait comme ça faire une traçabilité du primate juste avec sa tête. Voilà, donc c'était assez intéressant, ça laisse un petit peu songeur, parce que même on traque les primates, c'est vrai que c'est pas forcément respectueux de leur vie privée, mais bon, c'est pour leur bien, à eux aussi.
Ouais. Effectivement, je ne sais pas si c'est RGPD primate compliant, mais ce sera évidemment intéressant à suivre sur la technologie. Des applications qui sont un peu plus honorables, on va dire, que des contrôles de masse. Un autre sujet sur le plan un tant soit peu légal, c'est celui des applications de musique et de streaming de musique plus particulièrement, qui avaient retiré pour certains des artistes des plateformes musicales de par les événements de leur vie privée, notamment des situations de violence conjugale, comme c'était le cas de XXXTentacion qui s'était fait sortir un petit peu de la plateforme Spotify. Il y a R. Kelly aussi, il y a plusieurs artistes comme ça qui font l'objet de retraits dans les plateformes de streaming. Ça me fait penser à chaque fois que je parle de Spotify et des enjeux comme ça de médiatisation et de présence des artistes. Puis Olivier, un épisode que tu avais fait du Blablapod, ton podcast perso, où tu avais parlé de la médiatisation sur laquelle il y avait pas mal de critiques de la part de Taylor Swift. Mais au-delà de cet aspect de médiatisation, je voulais m'intéresser un petit peu sur l'aspect rôle d'un fournisseur de musique. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ils avaient presque tenter d'avoir un rôle sinon judiciaire, au moins moral, pour dire ce qui est acceptable ou pas. On sort un petit peu de la tech, mais est-ce qu'on peut considérer qu'une plateforme de streaming a une forme de responsabilité quant au fait de diffuser tel ou tel artiste, au regard non pas du contenu musical et notamment des paroles, mais de leur vie personnelle, Pierre-Olivier ?
En vrai, non, je vais dire 2-3 mots assez rapidement. Pour moi, une plateforme, c'est un catalogue. À un moment donné, Louis Ferdinand Céline, c'était un connard, et pourtant, on l'apprend en cours de français. Pourquoi ? Parce que c'est de la bonne littérature. C'est comme ça, c'est la vie. Et parmi les artistes, il y en a, c'est des gros trous du cul. Et ben pourtant ils font quand même des chansons ou des musiques qui sont des chefs-d'œuvre. C'est comme ça, c'est la vie aussi. Et on n'est pas obligé de les écouter, hein. C'est pas parce que c'est disponible que on est obligé de leur filer du blé, hein. Il y a pas de problème, hein. Simplement, par contre, il y a pas non plus de raison spécifiquement de les censurer sur la base de trucs qu'ils ont fait qui n'a pas de rapport avec la production artistique en tant que telle. Cela dit, et pour modérer un petit peu mon propos, Spotify et les autres plateformes de streaming éditent des playlists qui sont parmi les plus écoutées et qui génèrent donc un cash monstrueux. Eh ben, effectivement, les trous du cul, on n'est pas obligé de les mettre là. On n'est pas obligé de les mettre sur le devant de la scène. C'est très correct aussi de choisir qui on met de l'avant et qui on met pas de l'avant.
C'est d'ailleurs ce qui a été un petit peu retenu, hein, d'ailleurs, c'est d'avoir peut-être une présence dans les plateformes musicales, mais pas forcément d'être éditorialisé et mis en avant. Et ça, effectivement, je trouve que c'est du bon sens. Guillaume, du coup, t'avais peut-être un avis tranché aussi, toi, sur le sujet, du coup.
Bah oui, moi je pense qu'il y a quand même une certaine obligation morale, parce que quand tu as, je sais pas, imagine que t'as un tueur en série sur Spotify, tu le laisses sur Spotify, tu continues à lui verser du fric. Enfin, il y a ici, à un moment donné, il y a quand même un problème moral, parce que, voilà, tu finances, tu soutiens quelqu'un qui fait des choses qui sont moralement répréhensibles, voire très répréhensibles. Donc, on peut quand même se poser la question. Louis Ferdinand Céline, il est mort et il est dans le domaine public, tu vois. Donc, c'est un peu différent pour moi, c'est quand même un petit peu différent. Il est pas encore dans le domaine public, lui?
Non, 70 ans après la mort, hors période de guerre.
Okay.
C'est-à-dire que
il en a encore un bon bout de
temps.
Mais c'est vrai que...
oui, effectivement, sauf s'il y a une théorie de la conspiration. Ouais.
Non, mais tu vois, pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même une question à se poser. Mais en plus, effectivement, mais comme tu l'as dit, Pierre-Olivier, la vraie raison, finalement, ici, c'est quoi? Tu vois, le rappeur, il va revenir parce que d'autres ont menacé de quitter la plateforme. Et ils ont menacé de quitter la plateforme parce que Spotify aura fait de la discrimination raciale en particulier, hein. Donc c'est ça le truc. Donc finalement, ce qu'aurait dû faire Spotify, c'est virer tout le monde à la base. Mais s'ils avaient viré tout le monde, ça leur a peut-être coûté trop cher, tu vois. Ça aurait peut-être pas été bon pour les affaires. Donc je sais pas effectivement si les obligations morales, combien pèsent les obligations morales par rapport au chiffre d'affaires chez Spotify. Je sais pas trop, tu vois, si c'est la vraie raison, c'est une raison morale.
Bon, et puis moi je peux pas m'empêcher, et c'est peut-être je suis peut-être trop, moi aussi, complotiste d'un autre côté, mais j'ai tendance aussi à penser, et ça doit nécessairement peser dans la balance, j'ose pas imaginer qu'ils n'y ont pas pensé, que il peut y avoir quelque chose de positif pour une plateforme, j'ai le sentiment, hein, mais je me trompe peut-être, d'écarter un artiste et de le faire savoir, notamment quand il est médiatisé sur des canards un peu people, parce que ça te donne une image, justement, de celui qui ne se mêle pas à des acteurs d'actes répréhensibles. En gros, ils aiment bien ne pas s'associer à des personnes qui sont critiquées dans des attitudes dans leur vie privée. Mais évidemment, je pense que c'est pas de très très loin le seul élément qui les fait réfléchir à la présence des artistes. On enchaîne avec le règlement général sur la protection des données, autrement appelé dans vos discussions autour de la machine à café, le RGPD, si tant est que vous en parliez. Alors, c'est appliqué depuis le 25 mai. On a tous reçu, je pense, des méga milliards mails de services auxquels on n'était pas, à notre connaissance, abonnés. En tout cas, on ne se souvenait plus s'être abonné à ces trucs-là. C'est assez dingue, je trouve, d'ailleurs, de voir l'impact que ça a pu avoir au niveau des éditeurs de services, notamment par exemple Instapaper qui suspend carrément son service parce qu'ils ne sont pas mis en conformité. Je ne sais pas comment les développeurs n'ont pas pu anticiper ce règlement qui arrivait. Ils ont carrément suspendu leur service. Et puis, maintenant qu'il est appliqué, on se demande un petit peu, ça fait partie des questions qui sont encore un petit peu en suspens, quels vont être les vrais usages des condamnations du RGPD. Et on sait que dans le contexte légal, une des principales différences avec avant, c'est que maintenant, les sociétés peuvent se voir infliger des amendes au pourcentage de leur chiffre d'affaires et non plus des amendes forfaitaires. Donc évidemment, ça fait un petit peu plus trembler les géants peut-être de la tech. En tout cas, on est en droit de l'imaginer, mais en tout cas, on se demandait quand est-ce qu'il pourrait y avoir des premières condamnations ou des manières d'exploiter cette nouvelle réglementation. Eh ben, ça n'a pas trop traîné, en fait, puisque 4 plaintes ont été déposées très rapidement à l'encontre de d'Android, donc pour Google, à l'encontre de Facebook et 2 autres services de Facebook que vous connaissez bien, qui sont WhatsApp et Instagram. C'est Max Schrems, je prononce très mal peut-être son nom de famille, qui est à l'origine de cette procédure judiciaire. C'est un militant autrichien qui est réputé et reconnu pour la lutte contre la protection des données privées, et on le remercie pour son travail au quotidien. Un exemple concret de sa plainte à l'égard, par exemple, d'Android, il écrit que quand une personne qu'il a pris en exemple a allumé son nouveau téléphone pour la première fois, en l'occurrence c'était un Huawei Y6, elle a été contrainte d'accepter la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation. Il n'y avait pas d'option pour utiliser le téléphone sans préalablement donner son consentement. Alors je sais pas si c'est, je pense très clairement que ça doit être le cas de tous les smartphones Android. Est-ce que c'est du trolling? Est-ce que c'est une opportunité réelle de militants? Qui s'y colle, Pierre-Olivier?
Ou alors, c'est juste les gens qui savent pas utiliser un téléphone Android parce qu'ils ont passé leur vie sur iOS et qu'ils savent pas que le bouton back, ça existe.
T'as pas tort.
Bah, ouais. Moi, après, je dis ça.
Mais la question, c'est est-ce que tu peux utiliser ton smartphone sans accepter le
mais
truc?
Bien
tu
sûr.
Vois, c'est ça, surtout. Parce que le bouton précédent permet de revenir.
T'appuies sur back et ça y est, c'est terminé. T'es sur le bureau, il y a pas de problème. Par contre, ce que tu ne pourras pas faire, c'est accéder au Play Store.
Ça, c'est autre chose.
Lui, ça
ouais.
prend un compte Google, etc., etc. Ouais, ton téléphone, tu l'as
très bien,
tu l'utilises.
Très bien. Bon, tu vois, ça éclaircit les choses. Bon, après, c'est un exemple, hein, mais.
Non, j'ai vu les captures d'écran, j'étais à genre.
Alors, je vais être honnête avec toi. Je pense que c'est peut-être ma déformation d'utilisateur. Pourtant, j'en ai dit, hein, du Android. Mais j'aurais pas pensé qu'en faisant, précédent, ça me permettrait de squeezer cet aspect-là. J'aurais pensé que ça m'aurait ramené à l'étape précédente. Tu vois, intuitivement, en termes de parcours, de design.
Je dis back et je sais plus quel est l'écran précédent donc potentiellement mais je pense que l'écran précédent c'est l'écran qui te demande si tu veux te loguer avec ton compte Google et que la personne sait loguer sur son compte Google sur la capture d'écran et sinon tu peux aussi appuyer sur home et arriver sur le bureau tranquille.
Tout à fait.
Après oui.
Voilà, j'exagère, en fait, ça va passer à la suite du truc de configuration, mais ce que je veux dire, c'est que, à moins qu'il y ait une exception incroyable sur le Huawei, et ou que ça ait changé dans la toute dernière version d'Android, non, parce que, non, j'ai reset un téléphone il y a pas longtemps, et, non, je suis désolé, on peut, au bureau, j'ai 8 téléphones sur mon bureau, il y en a que 3 pour un compte Google. Hein.
Mais c'est possible.
C'est tout à fait vrai, hein, attention, pour truc, mais enfin, je pense que ce que veut dire Schrems, c'est que stresserait très très souvent sur pour les gros prestataires, d'un grand nombre de services, que ce soit Google, Facebook, voilà, Microsoft, il y a un côté tout ou rien, quoi. C'est-à-dire, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, mais du coup, tu peux pas utiliser tes services, donc bah, tu utilises pas du tout Facebook, pas du tout, et donc c'est très handicapant. Et ce qui est un petit peu dommage, parce qu'en fait, même quand tu t'inscris à Facebook, tu dois probablement, enfin, je suis pas sur Facebook, mais bon, en l'occurrence, si tu veux, je suppose que tu dois accepter des conditions pour pouvoir accéder au service. Mais après, une fois que tu l'as fait, tu peux régler justement peut-être aussi des choses, tu vois. Et c'est comme sur Windows, tu peux régler des choses que tu partages ou pas. Je sais pas, peut-être que les réglages devraient être faits avant, tu vois, parce que son argument, c'est que globalement, c'est un faux choix. Parce que la plupart des grosses plateformes te donnent le choix soit d'accepter toutes les conditions, soit de pas utiliser leur plateforme du tout, mais évidemment c'est pas vraiment une option. Tu viens de tu vois, enfin c'est pas vraiment une option finalement. Donc c'est un faux choix. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que souvent il y a des choses que tu peux régler après avoir tout accepté. Donc peut-être qu'il faudrait changer certaines choses. Enfin, c'est pas forcément idiot.
Moi, je pense que de toute manière, les conséquences de ce type de plainte, qu'elles soient fondées ou relativement trollesques, et de la réglementation, sont que de toute manière, je pense qu'il va y avoir sans doute une clarification des parcours utilisateurs et une prise de conscience, au moins d'un certain nombre d'acteurs, de ces éléments-là. Et après tout, c'est pas plus mal. On mentionne rapidement le fait que il y a eu du nouveau du côté du conflit qui oppose Samsung et Apple sur les éléments de design d'un smartphone. C'est quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps, hein, une condamnation qu'avait eu Samsung de payer 339 millions de dollars à Apple parce qu'en gros, il s'était un peu trop inspiré, selon la justice, de l'iPhone pour les nouvelles versions des smartphones Android, mais Samsung avait fait appel et en fait ben, la facture s'est alourdie à 539 millions de dollars. Donc je ne sais pas s'il peut y avoir encore des suites judiciaires, je n'ose pas imaginer que ça puisse s'arrêter là, ce serait trop simple. Un petit mot autour d'Intel et notamment sur le plan des ressources humaines qui seraient accusées de licenciement, oh je vais arriver à le dire, discriminatoire, Guillaume.
Ben oui, Intel est accusé de pratiques discriminatoires lors de sa grosse campagne de dégraissage qu'il entame en 2016. C'était 12 000 employés quand même, c'est 11% de la masse salariale. Et donc bien qu'Intel maintienne le contraire, évidemment, le Wall Street Journal révèle que sur un échantillon de 2300 licenciements, l'âge médian est de 49 ans, soit 7 ans de plus que l'âge des gens qui restent. Ce qui est un petit peu bizarre. Bizarre ou pas, hein, puisque les employés les plus vieux sont en général ce qui coûte le plus cher. Et d'ailleurs, IBM a vu les mêmes pratiques pour des employés de plus de 40 ans. Donc une enquête est en cours. Si elle aboutit, il va y avoir une grosse class action contre Intel.
Ouais, tout à fait, à suivre évidemment. Un petit mot sur le Bitcoin, un vrai épisode de Tech Café n'est pas un Tech Café si on parle pas un petit peu crypto-monnaie d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça et pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre-là? C'est parce qu'il y a une enquête ouverte sur, mais on en avait parlé, les manipulations considérées comme illégales aux États-Unis de la façon dont est contrôlée la blockchain. Je crois qu'on en avait déjà parlé, à moins que vous ayez envie de rebondir sur ce sujet. On peut enchaîner sur le sexy café, Guillaume.
Mais sur le Bitcoin, effectivement, j'avais déjà dit effectivement que le Bitcoin était une monnaie qui était particulièrement centralisée avec des grosses baleines et qu'il y avait finalement relativement peu d'acteurs et que du coup ça ouvrait la porte à toutes les fenêtres, hein. Donc là il y a deux grosses techniques, si tu veux, qui pourraient plus être utilisées pour faire monter les cours. Et donc la montée des cours jusqu'à 20 000 dollars, bon, ils se demandent si c'était pas complètement artificiel. Et donc, il y a eu le spoofing, hein, donc c'est des ordres en très grand nombre qui ont été rapidement annulés. Mais bon, quand tu donnes des ordres en très grand nombre, ça simule une demande, donc le cours monte. Il y a eu aussi peut-être du wash trade, qui consiste à faire affaire avec soi-même. Et donc, quand tu fais affaire avec soi-même, avec toi-même, ça coûte pas très cher, mais ça augmente le volume des transactions. Et du coup, c'est comme si la monnaie était super en vogue. Voilà, donc c'est des petites manipulations qui deviennent possibles pour le Bitcoin en particulier, à cause de sa nature vraiment très très particulière, ouais.
Décidément, c'est crypto. On n'a pas fini d'en parler sous ces angles-là. Ouais. Ce sera évidemment à suivre. Alors, Sexy Café.
Oui, Sexy Café. Bah, écoute, on avait déjà parlé de l'outil de lutte contre le revenge porn qui avait été inauguré en Australie et qui consistait en toi envoyant tes photos à poil à Facebook. Alors, c'est un truc, je dois reconnaître que moi, je trouvais ça vraiment, vraiment malin, en fait. Et je sais que ça avait plutôt mauvaise presse et que c'est effectivement très contre-intuitif d'envoyer ces sexes machins à Facebook directement, mais le principe qui est donc, je le rappelle, d'envoyer les photos qui peuvent être compromettantes à Facebook pour qu'elle les, non pas qu'elle les enregistre, mais qu'elle les hache, c'est-à-dire qu'elle en fasse une signature numérique. Signature numérique, elle pourra comparer ensuite sur toute la base de données des photos qui seront uploadées par des gens, et donc si cette photo réapparaît en tant que revenge porn, elle pourra être complètement et automatiquement éliminée, bloquée. Donc c'est pas forcément une super mauvaise idée, j'avais trouvé. Du coup, bon, voilà. La news, c'est que donc le réseau social va poursuivre dans cette voie et va ouvrir au Canada et au Royaume-Uni et aux États-Unis cet outil. Donc, ça se développe. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt, voilà. Je sais que ça soulève beaucoup de questions, mais moi, j'avais trouvé ça plutôt malin.
Moi, je pense que l'erreur, c'est de présenter ça justement uniquement sous le prisme du revenge porn. Je pense qu'il y a plein de situations où tu peux être amené à avoir un cliché en ta possession que tu as fait circuler et que pour une raison X ou Y, tu n'as pas envie qu'il se balade sur Facebook. Bon, après, c'est ce qui me paraît un petit peu réducteur, c'est de se dire que le seul risque pourrait venir de la circulation de cette photo sur Facebook. Mais enfin, en tout cas, c'est effectivement une bonne idée, non, Pierre-Olivier? Finalement, c'est contre-intuitif, mais c'est une bonne idée, non?
Oui, mais c'est pas le bon acteur. En fait.
Ah oui, ouais, tu mets le doigt dessus, je pense.
Essentiellement, on est sur des problématiques de droits d'auteur, donc ça devrait être pris en considération et ça devrait être à des acteurs spécialisés du droit d'auteur de régler ce genre de choses, et à charge pour toutes les entreprises et pas juste Facebook, ensuite de se plier, d'accéder à la base de données DH, etc. Et ça permettrait aussi de protéger les performances commercial de différents acteurs de l'industrie, les éditeurs, les producteurs, etc. Parce que bien sûr, en tant que personne, on est forcément concerné nous plus par la confidentialité de certains clichés, mais pour d'autres, il s'agit ni plus ni moins que de piratage commercial et nécessairement d'un manque à gagner, etc. Donc c'est un vrai enjeu et je pense pas que Facebook soit la plateforme qui puisse traiter de ces enjeux dans leur totalité et leur complexité, et encore moins la plateforme dans laquelle les gens ont confiance pour ce jeu de choses. Mais sur le principe, c'est totalement quelque chose qu'il faut faire.
Et notamment sur le plan technologique, c'est malin. Une news que on n'aurait pas pensé voir venir et qui, au premier abord, donne une impression bizarre. Et là aussi, je serais curieux d'avoir votre avis. C'est le fait que Pornhub propose désormais un VPN. Alors oui, c'est pas forcément le cœur de métier de Pornhub de proposer un VPN. Et pourtant, on peut assez légitimement et assez rapidement voir l'intérêt d'un VPN pour l'écosystème Pornhub, Guillaume.
Oui.
C'est toi, Guillaume, qui a mis cette news.
Oui, c'est pas Pierre-Olivier. Moi, c'est le sexy café, c'est moi. Et le truc, c'est que c'est une news qui m'a vraiment beaucoup fait rigoler. Pornhub, pour plein de raisons, hein, mais évidemment, donc Pornhub propose un VPN. Alors, c'est gratuit pour les mobiles, mais c'est payant pour les versions desktop, hein. Les débits sont un petit peu limités si on paye pas les $15 par mois de l'option premium. Bon, c'est du sérieux. Il y a 1000 serveurs dans 15 pays. Mais bon, alors, faire transiter tout son trafic par le VPN Hub, c'est-à-dire via Pornhub, qui, je le rappelle, appartient à MindGeek, qui est une des entreprises les plus grosses, les plus louches, les plus opaques du web, qui est d'ailleurs globalement financée par la pub. Bon, voilà. Leur faire confiance ou pas, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, il semble que, dans les conditions de de l'appli qui a été développée par Apatomic, l'appli récolte quand même quelques petites infos avec des cookies et les partage à des tiers pour de la publicité ciblée. Mais bon, le plus rigolo quand même, c'est que ça ressemble un tout petit peu à un doigt d'honneur à la législation anglaise, hein, qui, je rappelle, force tout le monde à s'authentifier pour certifier son âge avant de consommer du porno. Pornhub, évidemment, assure que non, hein, c'est un service totalement différent de HID. Mais bon, on est quand même dans la situation ubuesque où le même acteur du web, Pornhub, offre à la fois les moyens de se mettre en conformité avec la loi anglaise, HID, et de le contourner, VPN Hub. Donc c'est encore une démonstration d'à quel point les lois pudibondes sont en complet décalage avec la réalité, mais ça me fait bien rigoler.
Pierre-Olivier, une réaction ? Tu l'aurais vu venir, toi, un Pornhub VPN ?
Ouais. Je trouve ça triste que ce soit à cause du Royaume-Uni et pas à cause du Yémen, mais j'ai rien contre le Yémen, c'est un exemple, mais voilà, j'aurais pensé que ça sortirait à cause d'un pays autoritaire et pas à cause d'une démocratie, mais bon, voilà.
Dommage. On termine le sexy café, Guillaume ?
Alors, on va terminer, attention, parce que là, Pornhub, quand même, une autre news Pornhub, toujours lui, hein, propose désormais aux pornstars d'être payés en crypto-monnaie, et devinez laquelle ? Ben oui, ils vont être payés en verge. Ça s'invente pas, hein, je sais. Donc, au-delà de l'aspect cocasse de payer des pornstars en verge, c'est quand même intéressant, parce que du coup, ça va faciliter la vie quand même à pas mal de monde, hein, parce qu'il faut, le savoir, quand même, de nombreuses plateformes
on peut pas les payer en cash.
De moralité. Mais justement, on peut pas les payer en cash, mais il y a les plateformes bancaires ont souvent des clauses de moralité, comme PayPal d'ailleurs, par exemple, hein, qui rend parfois difficile, voire impossible, les transactions pour les travailleurs ou les travailleuses du sexe. Et c'est un autre exemple, hein, qui montre pourquoi je suis pas à l'aise à donner la toute-puissance aux plateformes bancaires et comment les cryptos peuvent être une solution. Donc pour le coup, c'est relativement intéressant.
La peine est double, hein, pour l'industrie, puisque il y a d'abord les performeurs qui ne peuvent pas encaisser l'argent, mais il y a aussi le fait que quand on fait un paiement sur internet ou en magasin, on peut toujours se rétracter, que la rétractation est plus ou moins facile et qu'elle est réputée très facile quand les achats sont faits en ligne, tous les gens qui gèrent un site de e-commerce savent de quoi je parle. Et c'est encore plus compliqué quand on est dans ce genre d'industrie du divertissement adulte, puisque là, c'est carrément les banques, à partir du moment où tu loges une plainte en disant « c'est pas moi qui fais la transaction », ils vont annuler la transaction et reprendre l'argent et sans même poser de questions pour savoir si vraiment ou non il y avait eu arnaque, c'est ton gamin qui avait pris ta carte bleue ou pas ou quoi ou machin. Et donc il y a énormément d'argent qui n'arrive jamais aux performeurs. Donc c'est un double problème à ce niveau-là, et c'est pour ça que effectivement le côté crypto-monnaie qui d'une part rend les personnes libres d'encaisser l'argent et d'autre part rend la répudiation du paiement impossible est super intéressante. Et pour ceux qui seraient tentés de dire qu'il n'y a pas de jeu de mots dans le nom de la crypto-monnaie et qu'en anglais ça veut dire une falaise et machin etc, le siège de MindGeek est à Montréal, croyez-moi, ils le savent très bien ce que ça veut dire.
C'est donc pas que un hasard ou un mauvais choix malencontreux.
Ouais, on peut quand même conclure ce sexy café en disant que l'industrie du porno vert est unanime, hein, que ce soit Naughty America, Bydoing VR ou VR Cosplay X, tous sont unanimes pour saluer l'Oculus Go comme étant le parfait médium pour leur contenu. D'ailleurs, que ce soit en VR ou pas, hein, puisque rien de mieux pour mater un porno sur un écran géant que, de manière très discrète, qu'un bon Oculus Go. Alors, bien sûr, officiellement, Oculus fait comme Apple, hein, c'est-à-dire qu'il joue les saintes nitouches. Et bien entendu, comme avec Apple, tout le monde s'en fout, hein, étant donné qu'il y a un navigateur web et des moyens de transférer des vidéos un peu comme on veut. Allez. Voilà. Donc, on dit toujours que le port démocratise une nouvelle plateforme. Alors, du coup, vous y croyez plus au succès de l'Oculus Go maintenant?
Ouais, mais en même temps, est-ce que ça apporte un truc? Oh oui, c'est quand même plus pratique. Ok, d'accord. Je disais que les autres casques style Omido ou les trucs comme ça, mais si, quand même, ça offre une expérience plus forte. Écoute, ouais, pourquoi pas, ça passera peut-être par cette case. Je n'avais pas eu connaissance, je pensais moi aussi naïvement que les plateformes étaient relativement fermées et ne permettaient pas ce genre de déboire. T'as raison, à partir du moment où il y a un navigateur, il faudrait être bête pour s'en priver. On enchaîne avec la rubrique. En bref, avec un petit peu de musique, on parle pas toujours et pas souvent de musique, mais je voulais relayer cet article qui a attiré mon attention, et je pense qu'elle n'aura pas manqué d'attirer votre attention, sur Facebook, qui a réussi à créer un algorithme, un programme qui prend une séquence de musique et qui est capable d'en faire un autre morceau de musique, ou plus exactement, qui est capable de transposer cette mélodie avec d'autres instruments ou d'autres styles de musique. Vous pouvez par exemple prendre une symphonie et lui appliquer des sons de rythmiques africains par exemple, et faire en sorte qu'il y ait une espèce de mix des deux, c'est-à-dire que c'est des rythmiques africains mais avec la mélodie de la symphonie. En fait, quand on regarde ça sur le papier, ça paraît assez dingue. Et finalement, moi, en regardant la vidéo, en écoutant les sons, j'ai trouvé ça assez mauvais. Je trouve que déjà à l'oreille, c'est pas joli à entendre. Et finalement, c'est pas aussi impressionnant que d'autres algorithmes. On a l'impression que ils ont pris une espèce de signal et qu'ils ont simplement collé dessus d'autres banques de sons. Donc, le terme d'intelligence artificielle, il est pas un peu surfait sur cette news, Guillaume?
En fait non, parce que je pense que c'est exactement l'équivalent de tu prends une photo et une intelligence artificielle la transforme en Van Gogh, tu vois, c'est un petit peu cette idée là. On change le style, mais on change pas l'essence du truc, on change pas la mélodie. Ça veut dire qu'il faut faire la différence, donc c'est quand même, non, c'est assez chiadé. Alors évidemment le résultat, il est pas extrêmement spectaculaire, ça c'est vrai, mais en l'essence c'est quand même relativement cool. Moi je trouve ça plutôt impressionnant, et je sais pas exactement si ça va avoir une utilité terrible, mais je trouve ça plutôt sympa.
Pierre-Olivier, t'as écouté, ça arrive à te convaincre, t'écouterais ça toi pour bosser ou pour ton divertissement?
Non.
Je pense pas que ce soit fait pour être écouté, hein. C'est vraiment une expérience quoi pour l'instant.
Alors,
c'est une démonstration technologique.
Ouais. Ouais. Qui est pas très, très bien maquettée, je trouve. Mais bon, elle a le mérite d'exister. En tout cas, toutes les chansons pop se ressemblent de plus en plus, Guillaume.
Ben ouais, ça m'a fait penser ça, hein. Bien, ça, bon, ça a pas grand chose à voir finalement, mais c'est un article sur les similitudes des tubes de la pop de ces dernières années. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, moi, j'écoute pas assez de musique à la radio pour m'en rendre vraiment compte. Mais il semble que beaucoup de tubes pop et hip-hop en particulier se ressemblent. Alors, je sais qu'on va me dire, ça y est, je suis en mode c'était mieux avant, tout ça, que je suis bon pour la retraite. Mais là, je dis non, pas du tout. Parce que Andrew Thompson et Matt Daniels ont fait ça scientifiquement avec des modèles pour comparer les similitudes dans les chansons et tout et tout. Il y a un long article sur The Pudding, et oui, ça fait tout de suite sérieux, qui montre sans aucun doute possible que oui, il y a de plus en plus de similitudes, et il donne même des raisons. Et il faut savoir qu'entre 2010 et 2014, les 10 principaux producteurs ont écrit 40% des chansons qui ont été classées entre 1 et 5 dans les charts, contre 19% seulement dans les années 80. Il y a aussi le nombre d'auteurs par chanson qui a explosé. C'est jusque dans les années 70-80, pardon, c'était entre 1 et 2 auteurs par chanson. En 98, c'était 2,9 et en 2017, c'est 5,1. Et il y a des chansons qui ont plus de 10 auteurs qui sont de plus en plus fréquentes. Donc en gros, tout se spécialise. Tout s'industrialise, et du coup, bah, tout s'uniformise. Du coup, dans le futur, bah, c'est difficile à dire, hein, surtout si on passe de 10 auteurs humains à un auteur intelligence artificielle, tu vois. Alors, du coup, on va se dire, voilà, l'intelligence artificielle va pouvoir produire de la musique, et c'est affreux. Bah, en réalité, aujourd'hui, si tu veux, le process de créer de la musique, et de la musique que la plupart des gens écoutent, il est de moins en moins artistique et de plus en plus technique, avec des gens qui sont ultra spécialisés. Donc bon, bah finalement, je sais pas si ça ferait une si grosse différence. En tout cas, si vous êtes intéressé par le sujet et que vous voulez, ou alors que vous voulez à toute force avoir des arguments quand vous-même vous êtes en mode c'était mieux avant, bah écoutez, allez voir dans les notes de l'émission, c'est vachement intéressant.
À suivre. Bon, mais c'était mieux avant, de toute façon, on le sait bien. Toujours dans le principe des algorithmes, on parlait tout à l'heure des algorithmes de musique, mais en tout cas là, on va parler d'algorithmes de conversation, puisque Microsoft a présenté sa propre version du Plex.
Ouais, alors du coup, ben oui, mais en fait, on en avait déjà parlé. Mais c'est juste que je sais pas si vous vous souvenez, c'était le bot qui parle en chinois de Microsoft qui s'appelle. Alors du coup, ça va me permettre d'essayer de le prononcer mieux.
C'est via Skype, Shao non, Ice. C'était pas ça. C'était via Skype, non, c'était pas ça, c'est pas un module de Skype d'ailleurs. Non, je sais plus, non, peut-être
je
pas.
Je sais plus. Enfin, tous les cas, c'est un bot qui a énormément de succès en Chine qui s'appelle donc Shao Ice. Et il a quand même 500 millions d'amis, il a plus de 16 channels en Chine, et donc il arrive à interagir via WeChat principalement. Alors peut-être qu'il interagit aussi avec d'autres trucs, hein, je sais pas exactement. Toujours est-il que après la démo de Google, Microsoft a aussi démontré que Shao Ice il était capable de soutenir une conversation téléphonique. Et apparemment, alors le truc, comme c'est en chinois, j'ai énormément de mal à vous dire si c'était super ou impressionnant ou pas. Donc on va s'en remettre aux gens qui comprennent le chinois et qui disent que oui, il a plutôt un bon accent. Donc voilà, c'est Microsoft et lui aussi dans la course, mais en chinois seulement, va savoir comprendre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, password, mot de passe, AZERTY, QWERTY, autant de mots de passe qui sont fréquemment utilisés. Ça ne change pas d'une année sur l'autre. Les études se suivent et se ressemblent. On utiliserait des mots de passe toujours aussi bidons, Guillaume.
Bah ouais, après l'étude de 61 millions de mots de passe anonymisés, les chercheurs de l'Université Virginia Tech ont recensé ceux qui étaient les plus utilisés, surtout leur typologie. Et donc il y a, par exemple, il y a d'une part les mots de passe qui ont rapport avec les films à la mode, les marques à la mode, ou le sport, ou juste des trucs de frustration du type « I love you »,« fuck you »,« asshole » ou « fuck off ». Et donc, ils ont recensé les plus utilisés. Donc voilà, on a des mots de passe aussi rigolos que « Superman »,« Pokémon »,« Star Wars »,« Metallica »,« Nirvana », ou bien « Ferrari »,« Playboy »,« Mercedes »,« Coca-Cola », ou bien « Liverpool »,« Chelsea »,« Arsenal »,« Barcelone » et « Manchester ». Et sinon, il y a les malins. Il y a ceux qui pensent que... on n'y pensera jamais, ceux qui utilisent des chemins clavier. Alors les chemins clavier, c'est quoi? C'est tout simplement vous appuyez sur des lettres contiguës sur votre clavier, mais selon un certain chemin, donc voilà, ça fait des trucs du style 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais aussi un Q2W3E4R ou un QAZ2WSX, etc. Et oui, donc c'est ce sont des mots de passe compliqués, mais qui tiennent pas deux secondes face à un brute force. Et voilà, ben donc il y a toujours le même problème, hein, c'est-à-dire que les humains n'arrivent pas à utiliser des mots de passe longs, compliqués, pour les 50 comptes qu'ils utilisent de temps en temps ou presque jamais. Et du coup, bah, ils se rabattent sur plusieurs fois les mêmes mots de passe, des mots de passe courts, des mots de passe bidons. Et en fait, bah, c'est normal parce que bah, les humains, ils sont pas faits pour ça. Donc tant qu'on utilisera un système aussi débile que un login et un mot de passe, il y aura ce genre de problème. Enfin, de mon point de vue.
Je trouve quand même qu'il y a, quand même plein de facilités à faire des mots de passe qui sont bien plus complexes et qui sont malgré tout facilement mémorisables. Alors ça se met difficilement dans le spectre des multitudes de services auxquels on est abonné. Encore une fois, quand on voit toutes les newsletters RGPD qu'on reçoit, on se rend compte de tous les services auxquels on est abonné ou auxquels on ne pensait même pas être abonné d'ailleurs. Donc ça fait autant de mots de passe à retenir puisqu'on vous le rappelle, il faut un mot de passe différent pour chaque service. Mais typiquement, tu sais, la vieille technique d'avoir trois images en tête et puis simplement de les écrire avec un point entre chaque mot, ça me paraît pas très très compliqué et quand même autrement plus fiable que plein de mots de passe. Donc je pense qu'il y a aussi un problème éducatif quand même. Ah, oui, c'est ça. Oui,
varier, t'as 50 comptes, 50 mots de passe différents, tu fais comment?
T'as raison, c'est vrai que c'est une difficulté.
Tu mets une recette de ratatouille, personne qui a la même.
C'est vrai, c'est... Ah bah ouais, ah ouais, j'avais pas pensé ça.
C'est pas mal. Il fallait y penser. Merci Pierre-Olivier. Il y a quelque chose qui est en vente là. J'ai vu passer ça sur le Bon Coin. Il y a une entreprise qui fait des smartphones Android et a priori ils sont pas mal. Ils ont un super design. Ils sont hyper résistants au choc. Ils sont assez épurés, assez performants. Pas trop cher, mais pourtant ils se vendent pas du tout. C'est Essential avec l'Essential Phone d'Andy Rubin qui serait dans une mauvaise situation financière, notamment parce que la commercialisation du smartphone était évidemment pas bonne, n'était pas au rendez-vous, les ventes n'étaient pas au rendez-vous, et il serait même en train d'arrêter la seconde version de ce smartphone, et l'entreprise chercherait à se faire racheter. Alors ça m'a un petit peu interpellé cette news, Pierre-Olivier, parce que dans mon esprit, Andy Rubin me paraissait pas être l'entrepreneur qui... peut lancer une entreprise et s'arrêter au premier échec commercial. Je me serais attendu à ce que ce soit justement qu'une V1 et qui soit effectivement très critiquée, notamment sur le plan commercial, et qu'il y ait eu plein de difficultés, mais qu'ils aient pu apprendre de leurs erreurs et arriver cette année, l'année prochaine peut-être, avec une nouvelle version d'un smartphone qui aurait peut-être pu exploser le marché. Va savoir, on voit qu'il y en a d'autres qui l'ont fait du côté de chez OnePlus. On sait que c'est une marque qui s'est bien installée avec les smartphones, avec des choix audacieux et des gammes de prix intéressantes. Comment tu vois ça, toi, cette revente, ça reste qu'une rumeur hein, à ce stade, mais cette revente probable de cette société d'Andy Rubin, Pierre-Olivier?
Je te rejoins. Faut savoir que c'est un personnage qui a influencé Apple deux fois. Déjà, c'est rare d'influencer Apple. Et alors, deux fois sur des choses aussi critiques que juste faire un OS mobile ou mettre une encoche sur son téléphone. Voilà, c'est pas rien. Andy Rubin, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le dude qui a créé la compagnie qui s'appelle Android Inc., qui a par la suite été rachetée par Google. Mais avant d'être créée, il y a eu d'autres histoires entrepreneuriales, mais sur le même sujet, la création de l'OS Android. Et faut savoir qu'avant, en fait, c'était une spin-off d'Apple. Andy Rubin travaillait pour Tonton Steve, et pour Tonton Steve, eh ben, il travaillait sur un projet de système d'exploitation où on pourrait installer des applications, c'est assez rigolo de voir combien de temps ça a pris d'aller concrétiser ce projet, ce rêve. C'est que les applications, l'essentiel de leur logique, de leur code, ne serait pas sur le téléphone, mais sur des serveurs distants. Donc, on c'est un truc sur lequel on n'est pas encore tout à fait. Mais on s'en rapproche dangereusement. Et cette spin-off, à un moment donné, elle a manqué de financement. Alors il y a eu une levée de fonds auprès évidemment de la maison mère Apple, mais aussi de partenaires, parmi lesquels Samsung, Google, enfin bon, des gens un petit peu partie prenante hein, aujourd'hui sur ce genre de sujet, et puis une deuxième ronde. À un moment donné, il a refallu du financement et Andy, il a pas lâché. Quand on lui a dit non, on remettra pas de billes dans ton projet, il a dit ben si c'est comme ça, moi je vais faire ma propre compagnie et puis je vais le faire pareil le projet. Et c'est comme ça que la boîte est née. C'est comme ça que finalement elle a été acheté par Google, sachant que auparavant il était allé voir pas mal d'autres boîtes, dont Samsung, qui avait rigolé en disant genre vous êtes 8 les gars, on est 500 000, vous allez faire quoi. Et donc bon, finalement la suite de l'histoire vous la connaissez déjà un peu mieux, mais ce rapide portrait pour dire que effectivement c'est un personnage qui est plutôt imbattant, et c'est vrai que si Essential se vend au plus offrant aujourd'hui, comme la rumeur le veut, et bah c'est assez surprenant de la part de Andy Rubin, qu'on ne connaît pas vraiment sous cette facette.
Peut-être que l'échec a été peut-être pris plus à cœur qu'on ne le pensait, et après tout, c'est vrai que les déboires se sont cumulés sur ce smartphone. On en attendait peut-être beaucoup, et comme beaucoup de choses sur lesquelles on en attend beaucoup, eh ben parfois les déceptions prennent des proportions énormes, qu'elles soient justifiées d'ailleurs ou pas. Merci beaucoup pour toute cette revue. J'ai retiré quelques news parce qu'on est déjà sur un épisode très conséquent de Tech Café. Je suis sûr que ça vous a passionné, mais on ne peut pas non plus faire des émissions de 2 ou 3 heures, quoique, allez savoir. On enchaîne tout de suite avec les, que dis-je peut-être, le bonus de cette émission, puisque Pierre-Olivier a pas nécessairement de bonus, et grand bien m'en fasse, ben moi non plus, je n'ai pas de bonus à vous présenter pour cet épisode 88, mais heureusement, on peut compter sur Guillaume Poggiaspala et son souci légendaire de la préparation des émissions, qui lui a un bonus. Qu'as-tu emmené dans ta besace pour cet épisode 88 de Tech Café, Guillaume ?
Très rapidement, hein, j'ai commencé la troisième saison de The Expanse, donc voilà, c'est toujours cool, donc je recommande The Expanse une nouvelle fois, et j'en profite pour mentionner au passage que la quatrième saison, qui a failli ne pas voir le jour, hein, puisque Sci-Fi, déçu par les scores du show, elle avait jeté l'éponge, est repris par Amazon, voilà, il reprend le flambeau. La quatrième saison sera donc sur Amazon Prime, et on la doit à la passion de Jeff Bezos pour l'espace et pour la série. On le sait qu'il aime bien les fusées, hein, c'est resté un grand enfant à l'intérieur. Voilà, donc enfin, je suis quand même content que la série soit sauvée.
Eh ben merci pour ce bonus aussi alléchant que rapide. Je suis assez dégoûté moi ces derniers temps de voir toutes ces opportunités de séries qui fleurissent, qu'on me recommande, qui ont l'air toutes plus géniales les unes que les autres, et de constater que j'ai vraiment pas réussi à me dimensionner pour trouver du temps pour les regarder. C'est pas très grave. On va conclure avec les incontournables des fins de Tech Café, pour vous rappeler déjà dans un premier temps que vous pouvez soutenir l'émission si jamais vous trouvez qu'elle a la moindre valeur pour vous. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil du côté de Patreon, qui est une plateforme de financement participatif, et il y a un lien direct qui vous amène sur une page dédiée au podcast Tech Café, qui vous permet de soutenir l'émission et de contribuer financièrement avec de toutes petites sommes par épisode. Donc si jamais cet épisode et les autres vous ont plu, il n'y a aucune différence sur l'avenir du podcast, qui reste gratuit pour tout le monde, mais ça permet évidemment de soutenir tout le travail qui est investi derrière. En attendant aussi, vous pouvez réagir à cette émission sur techcafé.fr, sur l'article qui accompagne la publication de cet épisode 88, et puis sur le groupe Telegram, dont vous avez le lien dans les notes de l'émission. On a dépassé les 200 membres et les conversations y restent aussi courtoise qu'intéressante que drôle. On n'aborde d'ailleurs pas forcément systématiquement des sujets tech, mais parfois des expériences un peu à titre perso. Il y a une très bonne ambiance qui se dégage de ce groupe, qui je trouve est une très bonne continuité de ce podcast. Ça fait très plaisir de vous voir nous rejoindre les uns après les autres sur cet espace. Je fais un petit tour rapidement pour vous rappeler qu'on peut-être joindre chacun d'entre nous sur Internet, à commencer par Pierre-Olivier. Où est-ce qu'on peut te joindre ?
Ah non, j'ai mis à jour ma politique de confidentialité.
Et même si on clique sur j'accepte, il y a pas.
Ok, si vous cliquez sur j'accepte, la communauté, le groupe Telegram, c'est un bon moyen de me joindre.
C'est un bon moyen pour te joindre. Merci beaucoup Pierre-Olivier aussi pour l'animation que tu y fais. À noter, ce RGPD, c'est dingue, hein. Moi, je me suis même rendu compte, vous savez, qu'il y a les liens de redirection, les po.st, les bit.ly et compagnie. Eux aussi se sont pris à la fièvre de l'avertissement des conditions générales type RGPD. Et donc, quand tu cliques sur un lien raccourci, tu te retrouves sur une page où on te demande d'accepter les cookies. Enfin, ça a devenu assez abscon comme parcours utilisateur. On pouvait s'y attendre. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Où est-ce qu'on peut échanger avec toi?
Mais moi, on me retrouve dans l'espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage mon vaisseau et... je me suis planté de série, pardon. Désolé.
Dommage. Et quand même pas ailleurs, un peu sur Telegram, quand même, de temps en temps, Guillaume.
Oui, parfois, je rôde parfois comme ça, effectivement.
Tu regardes, t'es un peu l'œil de Moscou dedans. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous retrouvez tous les liens et les actus me concernant et concernant mes productions sur guillaumevendée.fr et notamment une newsletter que j'ai mis en place il y a de ça 2 semaines qui vous donne des petites infos, pas forcément tech, pas forcément en lien avec l'optimisation du quotidien, mais qui sont issues un petit peu de ma veille. Donc des liens que j'aborde pas forcément dans les podcasts et des petits raccourcis vers les différents éléments que je produis. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup pour tous vos soutiens pour ce podcast et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Bye-bye.